Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Kerrévou et Charles Villeneuve.
Bonjour, Pierre de Villeneuve.
Programme sans politique intérieure ce samedi, comme toujours, veille d'élection. Et nous allons parler de cet événement tragique hier en Ukraine, le bombardement meurtrier de la gare de Kramatorsk. Le président Zelensky demande une réponse mondiale ferme au mal sans limite qui se répand dans son pays. Marioupol, Boutcha, Borodianka, Kramatorsk maintenant, toujours plus de morts, des civils, des enfants, sous les yeux d'une communauté internationale qui multiplie les déclarations et les sanctions économiques. Oui, mais comment arrêter tout cela? Quel gage doit-on donner à Vladimir Poutine pour arrêter ces massacres? Et quel rôle des États-Unis? Au Mali, les mercenaires de Wagner continuent d'ajouter de la violence à la violence. Ont-ils aidé des soldats maliens à perpétrer un massacre dans le centre du Mali? La présence russe tourne-t-elle également à la violence gratuite en Centrafrique? Est-ce aussi une façon de balayer les années de présence française sur place? Nous poserons la question. Et puis cette multiplication des attaques terroristes en Israël. Encore jeudi soir, un homme a ouvert le feu en plein Tel Aviv, faisant au moins 2 morts et 16 blessés. Le tout en plein Ramadan. S'agit-il d'actes isolés ou d'un retour terroriste coordonné par le Hamas? Nous en parlons en fin d'émission. Vous avez le programme, c'est parti. Kramatorsk, 52 morts et dont 5 enfants au dernier bilan. La gare, synonyme de liberté, a été visée délibérément par les Russes. Crime contre l'humanité, dit Paris. Horrible atrocité, dit Washington. Comme la sémantique semble vaine devant des faits d'une telle nature. Nous le savions, l'armée russe, essoufflée, étonnée aussi d'une telle résistance des Ukrainiens, se redéploie. Elle se replie dans le nord de l'Ukraine et regagne la Biélorussie. Et c'est maintenant l'est du pays, en particulier le Donbass, qui est visé par des tirs comme hier. Si l'est est de nouveau l'objectif russe, pourquoi avoir ratissé tout le pays? Et qu'est-ce qui attend les Ukrainiens, d'une certaine manière, de manière générale, dans les jours à venir?
Je pense que la grande question que se posent les officiers de l'OTAN, dont j'ai rencontré quelques spécialistes hier après-midi, c'est quel est l'effet majeur recherché par Poutine? Quelle est l'idée maîtresse de sa nouvelle manœuvre? Celle de rassembler sa masse de guerre, après l'avoir dispersée sur 10 axes différents, sur 604 000 km² avec le résultat qu'on connaît, et aujourd'hui de lui assigner 3 axes d'attaque, maîtriser le Donbass dans sa totalité, obtenir la capitulation de Mariupol, mais aussi de toutes les villes environnantes, réussir la jonction avec la Crimée et qu'il n'y ait plus aucun mouvement sur la mer Noire et vers Odessa qui ne soit contrôlé par les Russes. Et pour y parvenir, détruire toutes les installations alimentant le conflit, c'est-à-dire maîtriser tous les axes de déplacement, de ravitaillement, les voies ferrées, les ponts, les usines, les aéroports, l'espace aérien. Voilà ce que croit avoir compris et décelé dans le mouvement des troupes l'OTAN. Et évidemment, l'illustration de la gare de Kramatorsk est un premier exemple de ce qui va vraisemblablement se passer dans
le jours. Donc ça va continuer, en fait.
Bien sûr.
Oui. Gérard Kerrévou.
Oui, je crois que, pour revenir donc au fait, la gare de Kramatorsk, c'est effectivement pas une erreur. Ça ne peut pas être une erreur pour un certain nombre de raisons. La précision des missiles aujourd'hui, et même si on considère que les missiles russes peut-être sont inférieurs à certains missiles occidentaux, en tout cas, la précision des missiles fait qu'on ne peut pas frapper cet objectif très visible, puisque c'était un point de ralliement où les gens allaient pour prendre le train, pour se sauver, pour prendre des trains depuis des jours et des jours et des jours. Donc je pense que c'est un acte qui est un acte délibéré. C'est un acte délibéré. Alors après, on peut le qualifier. Moi, je me méfie des mots. Je trouve que parler de crime de guerre, sûrement, c'est sûrement un crime de guerre qui s'ajoute à d'autres, à ceux d'autres localités et des morts qu'on a vus ici et là dans les rues, etc. Mais parler, comme l'a fait M. Le Drian, de crime contre l'humanité, je trouve que ça n'ajoute rien et qu'on devrait se garder de parler, par exemple, de génocide ou de crime contre l'humanité. Mais ça signifie effectivement, Charles l'a esquissé, que faute de pouvoir gagner des éléments de bataille dans les batailles qu'il avait commencées, c'est-à-dire autour de Kiev ou à d'autres endroits, Poutine aujourd'hui est déterminé à obtenir des succès là où il peut en obtenir. Reste donc, quand on regarde la carte, très facilement la région du Donbass et la partie où on rejoint effectivement les mers chaudes, vieil objectif traditionnel de la diplomatie des Russes. Donc c'est là qu'il va frapper, et ce que je crains, et je terminerai là-dessus, ce que je crains, c'est que la guerre nourrisse la guerre en permanence. C'est-à-dire que je te fais cela, et je te... Et alors, évidemment, il y a eu des réactions qui ont été au-delà de ce qu'elles auraient dû, je pense, parce qu'à partir du moment où les réactions sont plus fortes que la réalité qu'elles décrivent, eh bien, ça suscite des... Je pense qu'au fond... L'engrenage de la stratégie de la terreur a commencé, et je ne serais pas surpris que dans le mois qui nous sépare du 9 mai, anniversaire, donc fameux anniversaire, que dans ce mois qui vient, c'est long un mois, hein, un mois de guerre, c'est long, il peut y avoir des choses encore bien pires que celles que l'on a vécues à Butcher ou celles qu'on a vécues à Kramatorsk, puisque ce sont les deux localités martyrs qui restent.
Oui, 9 mai, date de la grande guerre, jour anniversaire pardon, de la grande guerre patriotique des Russes contre l'Allemagne nazie en 1945. Catherine Ney.
Oui, moi je crois que je crois qu'on a été naïf de ne pas voir que, dans le fond, Poutine, c'est le même qui a écrasé Grozny.
Ça fait quelques semaines que vous le dites ici. Hein.
Oui, c'est le même parce que la première guerre, en fait, lorsque la République tchétchène a demandé d'être indépendante en 1993, bon, il y a eu une première attaque. Et là, ça a été une défaite de l'armée russe parce qu'ils ont, ont découvert une résistance tchétchène très forte, et si bien qu'il y a eu une sorte de cessez-le-feu qui devait durer 5 ans. Et puis, lorsque Eltsine, avec Poutine comme Premier ministre, sont arrivés au pouvoir et qu'il y a eu l'attentat dans le cinéma à Moscou, ça a été l'occasion pour Poutine de reprendre, toujours sa vouloir reprendre du terrain pour refaire l'Empire russe et que le Tchétchénie devait rester sous le joug de la Russie. Eh bien là, il y est allé, et là, pour lui, la seule réponse, c'est de réduire l'objectif à un tas de gravats. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'ils veulent, c'est tout détruire. Et là, ils se moquent complètement des humains qui sont sous les gravats. Peu importe les pertes, pour eux, c'est gagner à tout prix, et donc se faire maintenant les maîtres du Donbass, au moins commencer par là. Et c'est ce qui va, c'est ce à quoi il faut s'attendre dans les prochains jours.
Mais Catherine, quand vous dites on a été naïf de croire que Poutine... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La communauté internationale ne pouvait pas destituer Vladimir Poutine.
Non, mais on n'imaginait pas qu'il y avait... À quel point il détestait l'Occident, dans le fond. Qu'il a toujours voulu reconquérir l'Empire soviétique. C'était une obsession. Qu'il y est allé par petits bouts, un peu en Géorgie. Bon... La Crimée, c'est-à-dire qu'il ne respecte aucune règle établie, ni la parole écrite de la Russie, qui avait quand même signé à Budapest le fait que l'Ukraine était un État indépendant. Il ne respecte rien, c'est son obsession, et quel que soit le prix humain à payer,
vous
c'est
ce qu'il veut
faire.
Vous dites d'une certaine manière qu'on n'aurait pas dû le mettre au rang des autres chefs d'État, c'est-à-dire on n'aurait pas dû le mettre à égalité, comme on aurait dû avoir une...
C'est pas un démocrate, c'est pas un libéral, c'est quelqu'un qui n'a qu'une obsession, c'est refaire l'empire russe, l'empire soviétique, quel que soit le prix à payer.
Oui, mais c'est pas simplement en décrivant on a un personnage, il faut l'accepter comme tel. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va dire que il est pas très bien, on aurait préféré quelqu'un d'autre. On l'a en face de nous. Oui. Simplement, il faut comprendre que c'est un homme. S'il perd, il y a des gens, quand ils perdent, ils réfléchissent et éventuellement, ils changent de stratégie. Bon. Lui, quand il perd, il double la violence.
Michel Cotta.
Il y a quelque chose, je crois, de très important dans la tête de Poutine, puisque vous savez qu'il y a 2 ou 3 livres sur la tête de Poutine. Je pense qu'il y a profondément, et moi je dois dire que je ne l'avais pas mesuré à ce point-là, un mépris des démocraties. C'est-à-dire, pour lui, les démocraties, c'est, comme il l'a dit, le genre. Hein, une des premières critiques qui est faite sur la démocratie, c'est évidemment le genre, les mœurs, on fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a eu un vrai mépris de la démocratie qui fait que l'Ukraine, qui veut se démocratiser, c'est effectivement non seulement un péril pour lui, mais quelque chose presque répugnant. Et quand on voit, ça se double en plus. Ça se double d'un combat religieux. Parce que, effectivement, les orthodoxes russes, l'orthodoxe russe, le patriarche russe, est tout à fait sur cette ligne ultra-conservatrice et donc a donné raison et a donné son aval à Vladimir Poutine
pour
dénazifier l'Ukraine, alors que...
Vous voulez dire que le patriarche russe a donné son aval pour tuer des gens.
Alors que le patriarche...
C'est un militant, d'ailleurs, qui vit comme un oligarque.
Alors que le patriarche ukrainien, ukrainien a fait presque sécession et donc s'est rallié à l'orthodoxie grecque, mais c'est une façon d'avoir une orthodoxie
ukrainienne. Il y a un schisme
donc,
ce côté-là.
Si on ne comprend pas cette espèce de conjonction entre quelqu'un comme Poutine, qui de plus en plus, parce que ça quand même, ça s'aggrave, qui de plus en plus pense qu'il représente l'ordre moral face à des démocraties qui sont complètement... qui font n'importe quoi, et dans les mœurs, et dans les... Bon, eh bien, à ce moment-là, effectivement, avec la conjonction des orthodoxes, il est évident, des orthodoxes russes, il est évident que ça crée un nouveau Poutine.
Une pause et on revient dans le débat des grandes voix. Je pense que vous faisiez référence au livre Dans la tête de Vladimir Poutine, le livre de Michel Elchaninov qu'il faut lire. A tout de suite dans les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Catherine Ney, on parle de la guerre en Ukraine, bien sûr, et de ce bombardement de Kramatorsk qui, au dernier bilan, a fait 52 morts, dont 5 enfants. Charles Villeneuve, on parle de ce massacre de Kramatorsk, mais le massacre, il est dans notre histoire depuis toujours.
Mais je trouve que dans toutes les dernières guerres, on retrouve des actes de très grande violence et des similitudes dans les méthodes. Raser les villes, considérer que les civils sont à éliminer au même titre que les soldats, dans la mesure où la population a résisté, et c'est ce qui se passe en Ukraine, activement, la population est devenue l'ennemi, la destruction, le massacre. Regardez, ça a commencé en 82 à Beyrouth, avec le massacre de Sabra Shatila. 2000 morts, 2000 Palestiniens. Et puis ensuite, vous avez en Irak, en 2016-2017, Fallujah, Mossoul, Raqqa, Alep en Syrie, à moitié détruite, où on retrouve d'ailleurs, avec les hommes de Bachar el-Assad, le président syrien, les Russes, dans le bombardement et quasiment le massacre d'une partie des quartiers, notamment chrétiens, de Alep, qui est la deuxième ville de Syrie.
Et les utilisations des bombes thermobariques pour la première fois.
Oui, et... Et puis, tout à l'heure, Catherine a rappelé le massacre de Grozny en Tchétchénie. On retrouve toujours la même signature.
Srebrenica en
1995. Il ne faut pas oublier notamment les Américains aussi, à Abu Ghraib, si vous voulez, en Afghanistan, etc., etc. Donc, il y a Poutine, bien sûr, mais seul, et tout à l'heure, Gérard stigmatisait en quelque sorte la qualification du ministre des Affaires étrangère française, il avait, pour ma part, profondément raison. Seule la justice internationale peut qualifier soit de crime de guerre, soit de crime contre l'humanité, soit de crime de génocide. Et ça demande, de la part de la Cour pénale internationale, une commission d'enquête, si vous voulez, extrêmement précise, qui mettra longtemps à établir les faits et la responsabilité des faits.
Gérard Carrérou.
Et moi, je voudrais rester une seconde sur les violences. Je suis allé en Allemagne, j'avais 12 ou 13 ans, donc 10 ans après la fin de la guerre. Je suis allé à Hambourg. J'étais dans une famille, comme il y avait des échanges à l'époque entre des élèves de lycée ou autre. Et dans cette famille-là, les gens m'ont raconté les bombardements de Hambourg à la fin de la guerre. Les bombardements de Hambourg, c'était les bombardements alliés, américains et britanniques, avec des bombes au phosphore. Il y a eu des dizaines de milliers, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on regardera dans les livres d'histoire, des dizaines de milliers de morts. Les gens brûlaient vifs dans les rues. Et ça m'avait frappé, j'avais 12 ans, le monsieur qui me racontait ça l'avait vécu, il avait vu ses amis tomber comme ça, brûler tout au milieu de la ville. Donc je veux dire par là qu'aujourd'hui nous sommes indignés, à juste titre, de ce qui s'est passé dans les villes dont on a parlé déjà depuis le début de l'émission. Mais il faut se dire qu'on a oublié, parce qu'on est depuis 70 ans dans un monde où les guerres, pas un monde sans guerre, mais un monde où les guerres étaient plutôt des guerres ex-coloniales, si j'ose dire, des guerres qui se déroulaient loin, en Afrique, en Asie, etc. Le Vietnam en est un exemple. Et là, on oublie parce qu'on voit simplement que ça se passe. On a donc oublié et on voit que ça se passe. Cette férocité se passe tout près de chez nous, à quelques heures de vol. Et c'est pour ça que, alors, c'est pour ça que je dis malheureusement, il faut s'attendre encore à pire. Parce que, et je finis sur un mot, Poutine, lui, exerce immédiatement le tapis, si j'ose dire, le tapis de bombe. Tandis que les alliés, les Occidentaux, eux cherchent des réponses proportionnées, modérées, et surtout qui ne mettent pas en cause leurs intérêts vitaux. C'est-à-dire qu'on fera tout, sauf couper le robinet, pour l'instant, du gaz russe. Et ça, c'est typique. Il a compris très bien ça. Il a compris qu'on fait passer notre confort de l'époque, et après tout, pourquoi pas, mais il a compris en tout cas. Et alors, on fait semblant. On balance des bonnes paroles avec Madame Ursula, hier, Madame Ursula von der Leyen, qui fait des bonnes paroles, on va vous prendre, vous êtes des Européens, on va vous ouvrir la porte, vous allez remplir le questionnaire et tout ça. Et puis on dit un peu plus d'armes, les Anglais, un peu plus d'armes, de missiles. Et puis finalement, ça se limite à ça. Et Poutine a parfaitement compris. Pendant ce temps-là, il peut casser, il peut tuer.
Je veux dire, là, tu parles de Hambourg, mais en France, le débarquement d'alliés, je vais te dire, tu n'as qu'à demander au Havre, il y a eu 5000 civils tués par des bombes alliées, par les Anglais, par les Américains, et ce n'était pas les Allemands. Je veux dire, toute la côte a comme ça été martyrisée. Oui. Il y a eu, je ne sais pas, je crois...
40 000 morts
tués sous les bombes alliées. Oui. Donc on n'en parle plus, c'était parce que c'était les libérateurs qui ont quand même qui ont créé des drames et qui ont éradiqué pratiquement plusieurs villes.
Michel
Cotard.
Bien
sûr, c'est la guerre.
Si on revient quand même sur... ce qui se passe en ce moment, on peut quand même se poser la question des sanctions. Je crois que c'est un problème qui se pose et qui se pose à l'intérieur de l'Assemblée, à l'intérieur de tous les organismes européens. Alors, effectivement, il y a 5 vagues de sanctions différentes. Mais alors, je relisais qu'un ancien Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, disait « Ces sanctions ne marcheront jamais. Pourquoi ?» Il explique pourquoi. Il explique qu'il y a une résilience du peuple russe qui est prêt à accepter beaucoup de choses. Quand j'ai regardé, l'inflation est quand même à 16,7 en mars. Le prix des pâtes a monté de 25%. Le prix du sucre de 70%. Ils sont capables de le supporter.
Oui. La grandeur de la Russie avant
la grandeur de la Russie.
Christine disait des Russes qu'ils sont ivres d'esclavage.
Deuxièmement, la seule sanction qui serait efficace, dit Guy Verhofstadt, serait de frapper effectivement le cœur économique de la Russie, c'est-à-dire d'arrêter les fournitures de gaz et les fournitures d'électricité. Or, là, on voit que c'est la limite de la cohésion de l'Europe, puisqu'on voit très bien que l'Allemagne ne peut pas, pour le moment, faire ça comme ça. Et donc, on est vraiment sur des œufs. On marche sur des œufs et sur ces sanctions qui finiront par marcher. Mais elles marcheront plus tard, et sûrement des oligarques russes s'en foudragent de ce qui leur arrive.
Elles marcheront longtemps après la guerre. Après la fin de la guerre.
Oui. Je ne suis pas sûr parce que je ne vois pas où est la fin de la guerre.
Alors en attendant, on fait une pause et on revient dans un instant. On reparle justement des sanctions tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Kerrou. Catherine Ney qui voulait revenir justement sur les sanctions.
Ce qui est très intéressant... Par exemple, en Allemagne, où on voit bien que le gouvernement allemand, alors que le Parlement européen est pour un embargo total du gaz et du pétrole, du charbon russe. Donc, hier, il a été décidé l'embargo sur le charbon russe. Parce que ça, les Allemands peuvent s'en passer, parce qu'ils ont du lignite, qui est encore plus polluant que le charbon russe, et que même un ministre vert dit ben, « on marchera avec la lignite ».
C'est le paradoxe
mais
des écolos.
Le problème le Scholz, c'est qu'une entreprise sur trois en Allemagne, pour l'industrie, pour la chimie, marche avec du gaz russe. Et pour l'instant, ils ne sont pas prêts à accepter cette privation qu'on ne peut pas remplacer pendant plusieurs années parce que Il n'y a pas de
donc c'est deux pas en avant, trois pas en arrière.
Voilà, voilà, c'est ça qui est la grande différence. Et mais le Parlement, mais 42% des Allemands ont dit si on veut stopper Poutine, il faut se passer de tout. Ils sont prêts à se passer de chauffage cet hiver et de choses, mais pas les industriels parce que ça, c'est Gérard, la force de l'Allemagne qui est,
oui,
est
mais
en jeu.
Il faut comprendre une chose extrêmement simple. L'économie allemande, qui est devenue la première économie du monde, du monde occidental, européen, l'économie allemande repose sur quoi ? Elle repose depuis 40 ans sur l'ostpolitik, c'est-à-dire la politique vers l'Est. Et la politique, l'ostpolitik, illustré par Willy Brandt et ses successeurs, c'est quoi ?
Et Mme Merkel,
De Brandt à Merkel, c'est la même politique. C'est créons-nous une dépendance à l'égard de la Russie, ça fonctionnera toujours, et avec ça, on deviendra la première puissance économique d'Europe. Et ça a marché. Et Mme Merkel a été encore plus loin que Willy Brandt, puisqu'elle a commis l'erreur fatale d'arrêter le nucléaire en Allemagne pour faire, effectivement, pour obtenir la coalition avec les Verts. Donc voilà la réalité. Aujourd'hui, ces mêmes Allemands qui ont fait ça depuis 40 ans, avec persistance, effectivement, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, à moins de quelques années, en tout cas d'y aller graduellement, à casser le robinet. Poutine a compris que tant que les Allemands ne sont pas prêts à casser le robinet, avec le soutien de tous les autres, eh bien, il peut à peu près continuer ce qu'il a envie de faire pendant quelques temps.
Je crois que Mme Merkel, qui vient de l'Allemagne de l'Est, qui parle allemand, qui connaissait Poutine, qui pouvait parler russe avec Poutine, elle pensait qu'en ayant plus de relations économiques, ça l'amadouait, il en faisait presque un libéral. Là, elle s'est trompée. Mais aussi, il ne faut pas oublier, elle a été élue pendant 31 ans, dans une circonscription en Allemagne où arrivait le gazoduc.
Ouais.
C'était l'arrivée du gazoduc. C'est tout un symbole. Donc elle était pour et elle n'avait qu'une obsession. C'est l'expansion économique de l'Allemagne et elle en payait tous les prix avec des contrats avec les Russes et comme le dit Charles aussi, beaucoup pour les pièces détachées avec la Chine et ce qui pourrait poser aussi un problème à terme, on ne sait pas. Et c'est pour ça que l'Allemagne aujourd'hui est en grande tension. Les milieux économiques sont très inquiets. Alors que leur opinion publique, elle, est pour vraiment arrêter la guerre et vraiment...
Et vous remarquerez que Mme Merkel est particulièrement silencieuse.
En ce moment, elle est en Italie, en vacances à Florence. Et elle a envoyé un tweet.
Il faut dire deux choses quand même. Michel Cotin. Le personnage de Poutine a changé en 10 ans, en 20 ans. C'est vrai qu'on l'a accueilli un peu comme celui qui avait remis de l'ordre dans une Russie qui avait été éventrée, éparpillée par Eltsine. Donc on l'a vu d'abord comme un faiseur d'ordre, ensuite on l'a vu comme quelqu'un qui essayait de rentrer dans des normes avec l'Europe, avec les pays occidentaux. Il a quand même, moi je crois que cet homme a changé, d'ailleurs tous les auteurs, à tous les auteurs du livre, y compris Fedorovski, qui le connaissait très bien, pense qu'il y a eu quand même un changement. Il s'est cru, il est rentré un peu dans la théorie du complotisme progressivement, c'est-à-dire l'Occident nous en veut. Ce que disent, comme vous savez, tous les Russes de la rue en ce moment, qui disent « oui, c'est une preuve que l'Occident nous en veut ». Donc il y a quand même eu ce problème Poutine qui a désarçonné les gens, parce qu'on ne savait pas, qui a désarçonné les Occidentaux, parce qu'on ne savait pas au fond de quel côté il allait tomber.
Il est tombé du mauvais côté.
Il a réussi à retirer le rideau de fer. Il est tombé
là où il a penché. Et les signes avant-coureurs, maintenant, évidemment, c'est plus facile de voir les signes avant-coureurs aujourd'hui que ça ne l'était. Mais Grozny, quand il dit à Grozny qu'il ira les buter même dans les chiottes, parlant des Tchétchènes, souvenez-vous de cette belle phrase.
Je cite une phrase, entre guillemets,
j'irai les buter même dans les chiottes. Vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'il a ramené Grozny à un parking.
Et les Russes ont applaudi.
Revenons sur le terrain. Charles, jusqu'à présent, on aidait les Ukrainiens de manière logistique. Là, il y a peut-être une étape de plus en matière de livraison d'armes.
Mais on est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à peu près en 2014, les Ukrainiens ont compris que ce serait un jour ou l'autre leur tour. Notamment après ce qui s'est passé en Géorgie, en 2008, etc. Petit à petit, le raisonnement s'est fait autour de la plupart, notamment de Zelensky, aidé évidemment par le renseignement américain, allié exactement, c'est-à-dire anglo-saxon, Angleterre. Et vous savez que les Anglais sont certainement, entretiennent les services de renseignement les mieux informés sur tout l'Est. Ça fait très longtemps qu'ils ont investi là-dessus. Ce que n'avait pas très bien mesuré l'état-major de Poutine et les services de renseignement, j'en parlais tout à l'heure avec Gérard, qui se disait, c'est pas possible qu'il n'ait pas compris que depuis 2014, les Américains, les Anglais et les Pays-Baltes, et surtout la Lituanie, qui a une haine en quelque sorte viscérale à l'égard des Russes, puisqu'ils en ont pas mal bavé, il faut le dire, avant même la Deuxième Guerre mondiale et après, eh bien, se sont mis à former notamment toutes les brigades territoriales, les unités territoriales des Ukrainiens, et à les armer, et à les renseigner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les jours, les Américains notamment, qui ont déclassifié et qui ont décidé de partager les renseignements, c'est pratiquement public, le Wall Street Journal a fait un grand papier là-dessus, ils ont publié les cartes les plus secrète des mouvements des troupes russes.
Ça, c'est nouveau.
Et c'est une décision très importante. C'est la première fois qu'on assiste à ça dans le monde occidental. Ils ont décidé de poursuivre cette déclassification et ce partage des renseignements dans le cadre des crises internationales. Et donc, on formait à la résistance. Et c'est la raison pour laquelle le peuple est en état, si vous voulez, d'osmose totale avec son armée. Or, toutes les manœuvres auxquelles nous assistons à partir d'ailleurs du bombardement de cette gare et des 52 morts qui en est résulté, il faut savoir que les Russes vont évidemment poursuivre leurs manœuvres et que ça va s'accentuer. Et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie ces derniers jours, c'est que vous avez vu que la Tchéquie livre des chars lourds d'emploi soviétique d'ailleurs, qu'il leur reste des dotations
pour les Ukrainiens,
d'armement pour les Ukrainiens. Et il y a donc une ligne rouge qui a été franchie. Est-ce qu'elle va s'accentuer? Je ne sais pas.
Et dans les armes, Charles, dans les armes, toi qui connais bien les armes, on a effectivement, on est passé d'une ligne qui était effectivement claire, pas d'avions, autrement dit, pas de no-fly zone.
C'est ça.
Première chose, et pas d'armes. On disait, on prétendait toujours armes défensives.
Oui, mais
aujourd'hui, on envoie des armes anti-chars, qui sont effectivement des armes offensives. On a passé la ligne. Mais simplement,
ce à quoi il
faut s'attendre de la part de Poutine, c'est qu'à partir du moment... Et hier, Mme Ursula von der Leyen a encore annoncé 500 millions de plus qui font 1,5 milliard pour les armes qu'on envoie. Là, les armes, je parle de l'Europe. On va avoir, à un moment ou à un autre, Poutine ou l'un de ses relais, Lavrov, disant, attention, les Occidentaux, les Européens deviennent des co-belligérants. Ils sont entrés puisqu'ils ont fourni tel type de matériel. Donc ils vont ressortir le nucléaire.
Mais moi je crois que ce qu'on ne dit pas, c'est que les Russes sont venus en Ukraine, c'est pour faire presque une opération de paix. Ils n'ont jamais dit que c'était la guerre. Donc comme c'est pas la guerre,
une opération spéciale.
C'est une opération spéciale. Oui. Donc comme c'est pas une entrée en guerre, c'est on répond à par une autre opération spéciale. Il faut jouer sur les mots.
Oui.
Et voilà.
Mais il y a des détournements maintenant. Vous savez, c'est l'humour noir russe. Maintenant on appelle ça opération spéciale et paix. Hein,
plutôt que la bombe atomique, ça pourrait être une opération spéciale.
On ne peut pas parler de d'armement et tout ça sans parler malheureusement du nucléaire.
Eh oui,
c'est ça qui change tout. Non, mais justement, c'est ça qui change tout dans la disposition des Occidentaux. Je veux dire, on peut dire, ils sont faibles. J'entendais hier une jeune Ukrainienne dire à la télévision, mais de toute façon, même si vous entrez en Ukraine, il n'y aura pas de réponse atomique, on n'en sait rien. Et le colonel qui était là lui disait, vous savez, c'est ce que disaient Staline et De Gaulle. Non, et De Gaulle, si vous n'êtes pas là, si vous me tirez dessus, vous ne serez pas là pour le voir.
Le dernier mot,
Catherine. Je voulais juste, ce qui est intéressant hier, c'est le communiqué de Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, et qui a parlé de tragédie à cause du nombre de morts du côté russe, et qui dit « nos militaires font de leur mieux ». Ce qui montre aussi que le loup russe est un peu aux abois et qui s'aperçoit que sa stratégie d'envahir partout parce qu'ils avaient mal mesuré les choses, c'est complètement raté. Maintenant, ils rassemblent leurs forces pour peut-être détruire complètement le Donbass et toute cette région-là. Mais je veux dire, c'est aussi admettre une certaine défaite et de s'être planté. Oui. Je veux dire, c'est ça oui, qui
c'est
est quand même...
C'est aussi préparer peut-être à des actions plus fortes encore.
Non, oui. Ça sera le dernier mot, parce qu'après, oui. Il faut qu'on parte en Mali.
Juste, juste une remarque, et à propos des morts, que, chapitre que vient d'aborder Catherine, qui est très important, c'est que les Ukrainiens, et les Américains d'ailleurs, et les Anglais, et les Occidentaux, ont tiré la leçon de ce qui s'est passé en Irak, notamment. Vous avez peut-être vu ce film américain, American Sniper. Oui. Les tireurs embusqués ont fait des dégâts considérables, d'un côté comme de l'autre, du côté américain ou du côté notamment syrien. Ce fameux dans le film, c'est un tireur d'élite syrien qui bloque des compagnies entières de SEALs et de Marines américains. Bon, ils ont tiré les leçons et parmi les dégâts importants dans l'armée russe en ce qui concerne l'opération spéciale justement de l'armée russe, ce sont les snipers ukrainiens qui ont fait des dégâts. Vous savez que vous pouvez bloquer des compagnies entières de manière très
habile. Vous avez raison, il suffit de voir ce film pour comprendre.
En ayant aménagé la défense, organisé cette défense dans une ville. Un tireur à lui seul fait beaucoup plus de dégâts qu'une compagnie ou qu'un escadron de chars.
10h44, une pause et on file au Mali avec les grandes voix.